Bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes, une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore, musicale, pertinente, impertinente, moins pertinente, les petites images qui bougent depuis un peu plus d'un siècle maintenant sur nos écrans. Et ce jour, 24 notes secondes va innover en vous proposant tout de suite ça. On pourrait presque finir l'émission là maintenant, ça se passe absolument de commentaires. Alors vraiment, vraiment, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est que vous viviez sur une autre planète. Ma foi, pourquoi pas, des fois on y pense. Depuis presque 50 ans maintenant, puisque c'était un extrait de la bande originale de La Panthère Rose, bien évidemment. Un film de Blake Edwards sorti quelque part entre 1963 et 1964. Une musique signée d'Henry Mancini, l'indispensable Henry Mancini qui signe, je le rappelle, notre générique avec un autre film de Blake Edwards tourné 2-3 ans avant qui s'appelait Diamant sur canapé. Et c'est à cette Panthère Rose, je pense que cela vous plaît, lisera que nous allons consacrer cette émission de ce jour, qui sera donc certainement l'une des plus cool de toute l'histoire de Divergence FM. Vous pouvez mettre un martini avec quelques pickles, remettre un peu de bois dans le feu s'il fait froid, ou alors vous remettre un peu de crème dans le dos, ou alors si quelqu'un d'autre peut le faire pour vous, c'est encore mieux s'il fait chaud. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, vous vous installez confortablement pour évoquer un film qui, au départ, ne devait pas être ce qu'il est finalement devenu. Au départ, rien ne disait que cette fameuse panthère rose finirait par acquérir une vie propre, et surtout au départ, rien ne disait que Peter Sellers, qui est l'interprète principal de ce film aux côtés de David Niven, Claudia Cardinale et quelques autres que nous allons évoquer, eh bien deviendrait grâce à ce film la super vedette qu'il est devenu. Alors, ma petite fiche m'indique que c'est à Blake Edwards qu'on doit l'idée d'avoir demandé aux vétérans Fritz Freleng et David Dupont Batty, de créer pour le générique du film, le générique de début du film, un personnage de cartoon qui n'existait pas auparavant et qui serait une panthère rose, tout simplement parce que le film raconte, si tant est que la panthère rose film raconte quoi que ce soit, raconte la quête d'un diamant absolument magnifique, en tout cas d'une pierre précieuse, dans lequel, diamant, la légende veut que sous un certain angle, on puisse voir une panthère rose. Donc, vous avez suivi dans le film la panthère rose et dans les autres films qui suivirent, c'est un diamant. Et du coup, la panthère rose devint le générique du film et cet animal qui est certainement, là encore, l'animal le plus cool, le plus placide, le plus impassible de tout le temps, de tous les temps, pardonnez-moi, finit par avoir une vie propre puisqu'on fit moult comics, moult dessins animés, moult petites bêtes en fourrure, etc. On fit même, les plus anciens s'en souviennent, de la pub pour le tramway de Montpellier avec la dite panthère rose. Et effectivement, c'est une façon comme une autre de supporter les travaux. En tout cas, c'est vrai que la panthère rose, s'il en faut ou s'il en fallut, c'est un symbole absolu de coolitude, un modèle pour nous autres modestes êtres humains, un animal qui traverse les temps et les épreuves d'une manière parfaitement impassible. Et je pense que le succès de cet remarquable et estimable animal doit aussi beaucoup au thème que composa Henry Mancini pour l'occasion. Qu'en dire sinon que c'est une de ses idées absolument géniales, comme parfois peuvent en avoir des compositeurs qui ne le sont pas moins. Et puis, c'était aussi un des sommets de la collaboration quasi infaillible entre le dénommé Henry Mancini et Blake Edwards, donc le réalisateur du dit film. Blake Edwards, qui en 1964 n'en était pas à son coup d'essai, puisque il avait tourné son premier film en 1955, toujours à part quelques films dans une veine comique. Et que donc, avant La Panthère Rose, il avait notamment signé Les Délicieux Vacances à Paris et Opération Jupon en 1959, le fameux Diamant sur canapé déjà évoqué en 1961. Et puis, juste avant La Panthère Rose, deux films qui n'avaient absolument rien à voir. Un film policier avec Lee Remick dans le rôle principal, Allô Brigade Spéciale en 1962. Et un film qui racontait la déchéance d'un Jack Lemmon alcoolique plus vrai que nature, Days of Wine and Roses, le jour du vin et des roses en 1963. Il faut croire qu'en 1964, eh bien, Blake Edwards avait besoin de s'aérer l'esprit et ma foi, il le fit plutôt brillamment avec ce film qui se passait quelque part du côté de Cortina d'Ampezzo, entre autres, et qui racontait la quête plus ou moins féroce, plus ou moins fébrile du diamant déjà évoqué par un David Niven qui était, la petite histoire l'apprend, l'inspiration d'Henry Mancini quand il composa la bande originale de ce film. David Niven, un acteur duquel on va parler dans quelques minutes, mais on va à nouveau s'écouter un petit extrait de cette bande originale. Attention, vos glaçons sont en train de fondre. faudrait presque des bruits de glaçons ou quelque chose pour accompagner cet extrait de la bande originale de La Panthère Rose, signé Henry Mancini, film de Blake Edwards auquel nous consacrons l'émission de 24 notes secondes de ce jour. Alors, quelques mots sur un des interprètes principaux de ce film, David Niven, né le 1er mars 1909 en Écosse, aussi étonnant que ça paraisse, pour un acteur qui incarna toute sa vie la quintessence du flegmatisme à l'anglaise et qui l'incarna sur une carrière extrêmement longue. J'ai sous les yeux sa filmographie, elle est tout à fait impressionnante. Elle débute au cinéma en 1935. Il faut dire que ce garçon avait au départ tenté l'armée, ce qui paraît un peu curieux quand on connaît la carrière brillante qu'il fit, notamment pendant les 15 ans qu'il passa à la MGM avant la guerre, et puis ensuite eh bien, de par le monde, puisque David Niven fut dans les années 50-60 l'une de ces stars qu'on pouvait voir un peu partout sur les écrans. C'était d'ailleurs le cas dans La Panthère Rose, au générique plutôt éclectique, mais on le vit aussi, pour citer deux, trois films qui ont peut-être marqué les esprits, dans le rôle de Phileas Fogg dans Le Tour du Monde en 80 jours, de Michael Anderson tourné en 1956. On le vit dans Les Canons de Navarone, de Jack Lee Thompson en 1961. On le vit dans Les 55 jours de Pékin, autre superproduction tournée en 1963 par Nicolas Ray, etc. etc. En fait, David Niven... Ah, si, on le vit aussi dans Casino Royale de 1967, un James Bond un peu parodique qui, pour les aficionados de James Bond, reste quand même un must, même si certes pas dans le canon. Bref, on vit David Niven un peu partout. On peut le lire aussi, puisqu'il a publié une autobiographie et un recueil de souvenirs qui sont absolument délicieux, si ça se trouve. Et ça se trouve maintenant, les livres d'occasion, Décrocher la lune et Étoile filante. Bref, un de ces acteurs qui avait tout simplement la classe, à la fois dans la comédie et dans le drame. Alors, il était plutôt dans le registre de la comédie, dans La Panthère Rose, même si ce n'était pas lui qui interprétait les passages les plus comiques. Peter Sellers, que nous allons évoquer, tirerait la couverture à lui, mais David Niven mérite quand même d'être cité comme la quintessence de quelque chose que... Comment dire, la Grande-Bretagne actuelle ne nous évoque plus que très, mais alors très rarement. Allez, on continue sur cette lancée de la coolitude et je vous propose d'écouter un nouvel extrait de la bande originale de cette Panthère Rose, Pink Panther in English, une musique d'Henry Mancini sur Divergence FM.
Meglio stasera, baby. Go, 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 or as we made it say, Fasubito. If you're ever gonna kiss me, it had better be tonight, while the mandolins are playing and stars are bright. If you've anything to tell me, it had better be tonight, or somebody else may tell me and whisper the words just right. Meglio stasera, baby, go, 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 or as we made it say, fa subito. For this poor Americano who knows little of your speech, be a nice Italiano and start to teach. Show me how in old Milano lovers hold each other tight. But I warn you, sweet paisano, it had better be tonight. Meglio stasera, baby, go, 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 or as we made it say, fa subito.
Pardon de vous vous avoir réveillé. Un nouvel extrait de La Panthère Rose de Blake Edwards auquel nous consacrons cette émission de 24 une autre seconde qui ne pourrait pas ne pas évoquer la carrière de Peter Sellers qui connut en 1962 l'un de ses basculements vers une célébrité internationale. Peter Sellers n'en était pas en 1962 à son coup d'essai, si l'on peut dire, puisque acteur anglais né le 8 septembre 1925, eh bien, il avait commencé à tourner au cinéma en 1951 pour un film qui s'appelle Penny Points to Paradise, si vous voulez le savoir, et duquel je ne sais absolument rien. Dans les années qui suivirent, eh bien, il fut en mode mineur par rapport à Alec Guinness, qui fut son idole de toujours. Il fut en mode mineur l'un des acteurs de cette comédie à l'anglaise très populaire donc dans les années 50. On pourrait citer Noblesse oblige de Robert Hammer, même si Peter Sellers n'en était pas, et on pourrait aussi citer Le tueur de dames d'Alexander McKendrick. McKendrick, oui, c'est bien ça, encore un bon score au Scrabble qu'il tourna en 1955 aux côtés de son idole, justement, Alec Guinness. Ensuite, eh bien, petit à petit, il se fit un nom de par lui-même et on le vit notamment en 1959 dans La souris qui rugissait de Jack Arnold, où il interprétait là encore 4 ou 5 personnages pour une renommée croissante qu'il amena notamment dans le rôle, à mon sens, un peu improbable pour lui, mais j'avoue ne pas avoir vu le film, du Topaz de Panini, qu'il réalisa d'ailleurs en 1961. Jusqu'alors cantonné à des rôles plutôt comiques, en 1962, Stanley Kubrick lui donna un rôle dramatique dans le Lolita. D'après Nabokov, ai-je besoin de le préciser, tourné par le susdit Kubrick en 1962, qui amena donc Peter Sellers à prouver l'étendue fort large de son talent, qui trouva à s'épanouir en 1963, année d'or donc pour lui, dans La Panthère Rose déjà cité, mais aussi, qui a pu l'oublier, dans le rôle du docteur Follamour de Stanley Kubrick, Doctor Strangelove, or How I Love to Love the Bomb and Stop Worrying, or something comme ça, le titre complet, mais vous pouvez aussi demander Docteur Follamour à la caisse, on vous laissera quand même rentrer. Ensuite, eh bien, une carrière relativement brillante que je n'ai guère le temps d'évoquer parce que 24 notes secondes, c'est avant tout de la musique, mais je ne peux pas ne pas évoquer le fait que le rôle de l'inspecteur Clouseau, un inspecteur français avec son imperméable et son chapeau qu'il interprétait dans La Panthère Rose, eh bien, ce rôle le poursuivit tout au long de sa carrière, puisque dès 1964, les deux mêmes complices, Blake Edwards et Peter Sellers, tournèrent Quand l'inspecteur s'en mêle, A Shot in the Dark, dans lequel Clouseau jouait un rôle relativement important. Puis il y eut une éclipse, en tout cas des films, parce que la Panthère Rose animale, elle, poursuivit une belle carrière pendant une dizaine d'années, avant que coup sur coup, on ne vit sur les écrans en moins de 3 ans, Quand la Panthère Rose s'en mêle, La malédiction de la Panthère Rose, et j'ai oublié le premier, évidemment, Le retour de la Panthère Rose. C'était sans doute un peu trop, la musique était toujours d'Henry Mancini, la réalisation était toujours de Blake Edwards et les gags étaient toujours de Peter Sellers, mais ils étaient de plus en plus laborieux, puisqu'il faut dire, et ceux qui ont vu le film, plutôt pas mal d'ailleurs, qui était inspiré de la vie de Peter Sellers, pourront en juger. La vie de Peter Sellers fut très loin, mais alors très très loin d'être aussi drôle que celle de l'acteur, puisqu'il épousa plusieurs femmes, ce qui peut être drôle, mais ce qui peut être aussi tragique, et puis surtout, il eut de gros ennuis de santé qui d'ailleurs le firent finalement mourir d'une grave maladie de cœur le 24 juillet 1980. Mais il y a comme ça des hasards plutôt bénéfiques, puisque avant de mourir, eh bien, Peter Sellers tourna certainement l'un de ses meilleurs rôles dans un film de Al Ashby tourné en 1979. En anglais, ça s'appelait Being There, ce qui était quand même beaucoup mieux que le titre français Bienvenue Mr. Chance, où on voyait un jardin vaguement analphabète, mais qui justement se limitait à parler quand il avait quelque chose à dire, devenir tout simplement président des États-Unis. Une satire au vitriol de la vie publique américaine, mais aussi occidentale dans son sens large. Je n'ai pas besoin de dire qu'il n'a rien perdu de son actualité. Avis aux amateurs et aux autres. Allez, on se resserre un martini. Un thé pour ceux qui ont arrêté l'alcool, mais quand même un martini, c'est mieux. Ou alors un doigt de whisky, mais personnellement, je ne fais pas. Et on s'écoute à nouveau un extrait de la BO de La Panthère Rose. Thank you. Alors voilà, c'était un peu différent de ce qu'on avait écouté jusqu'alors, mais c'était en fait une scène finale, pour ceux qui ont vu le film, une scène de poursuite, évidemment absolument hilarante, où on voyait plein de personnages déguisés en plein d'animaux bizarres, mais pas en panthère rose. Curieusement, quelque part, si je me souviens bien, dans les rues de Rome, mais je ne suis pas tout à fait sûr de m'en souvenir. On va s'écouter aussi, même si il faut bien l'avouer, les suites de La Panthère Rose, sauf quand l'inspecteur s'en mêle, qui était un très très grand film lui aussi, sont loin de valoir le premier opus. Par contre, dans les suites, on voit un personnage qu'on ne voit pas dans La Panthère Rose, interprété par Herbert Lom, qui est une sorte de souffre-douleur de l'inspecteur Clouzot et qu'on reverra dans tous les films, là encore avec des effets absolument hilarants. Alors un comique de slapstick, un peu à la manière de Max Sennett, auquel d'ailleurs le morceau que nous venons d'écouter rendait hommage, un peu un comique de slapstick qui a peut-être un peu mal vieilli, mais un comique visuel tout à fait réussi, avec un interprète tout à fait charismatique. Donc un petit extrait pour ne pas être trop bavard, du retour de La Panthère Rose. Alors je vais quand même prendre ma petite fiche pour être précis et vous indiquer que le dit retour fut tourné par Blake Edwards, vous l'avez compris, en 1974 et que, cela ne vous étonnera pas, la musique en était signée aussi d'Henry Mancini. Voilà un extrait de la bande originale du Retour de la Panthère Rose, tournée en 1974 par Blake Edwards. Alors c'était une émission consacrée à la Panthère Rose, à cet animal absolument inoubliable et qui n'est pas en voie de disparition. C'est bien rare, on aurait pu aussi évoquer Claudia Cardinal, Robert Wagner, Capucine, qui tenaient les rôles principaux aux côtés de David Niven et Peter Sellers, de la carrière desquels nous avons peu parlé. Mais en tout cas, il y a une chose que je vais vous inviter à faire. Alors là, comme ça, dans 24 notes secondes, un peu de whisky peut-être, mais arrêtez les psychotropes et autres antidépresseurs, achetez-vous le best-of d'Henry Mancini et passez-vous ça sur votre chaîne IFI. Je suis sûr que ce sera vraiment beaucoup plus efficace et la sécurité sociale et les assurés s'en porteront certainement aussi bien. En tout cas, c'est une émission consacrée à la coolitude. Parfois, ça fait du bien de pouvoir évoquer en toute douceur des émissions. Donc maintenant, allez, on va se refaire le thème principal. C'est si bon. Voilà, 24 secondes. Fini pour aujourd'hui. À bientôt. Au revoir. See you. Bye bye.
Qu'est-ce que c'est?
Rien. Et tout.
Mais enfin, qui est-ce?
Personne, et cependant quelqu'un.
À la fin, me direz-vous, que fait ce quelqu'un?
Il fait peur.
Divergence FM.